c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le réchauffement du climat de notre planète est principalement dû à la combustion du gaz, du charbon et du pétrole qui font tourner l'économie mondiale depuis la révolution industrielle et qui alimentent toujours nos besoins croissants en électricité. La puissance des ouragans qui frappent les Caraïbes nous rappelle l'urgence d'enrayer cette spirale. Nous connaissons les solutions, consommer moins et mieux et développer massivement les énergies renouvelables. Le continent africain en plein développement mise sur l'hydraulique, le solaire et l'éolien et les entreprises françaises y exportent leur savoir-faire, comme nous le verrons dans la deuxième partie de l'émission. Mais la France, pays organisateur de la COP21, est en retard sur ses objectifs. C'est pour faire un bilan que le syndicat des énergies renouvelables et l'ADEME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, ont organisé une conférence cette semaine à la Maison de la Chimie à Paris. C'est là que nous avons installé notre studio. Le thème, énergie renouvelable, une place grandissante dans l'économie française. Nous en parlons avec nos invités. Jean-Louis Ball, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat français des énergies renouvelables. À vos côtés, Elisabeth Hérault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Compagnie nationale du Rhône et avec nous, David Marchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service adjoint réseau et énergie renouvelable à l'ADEME. Alors Jean-Louis Ball, selon le récent rapport du Commissariat général au développement durable, la France est en retard sur ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Dans quelle proportion ?
Alors, on s'était donné, au moment du Grenelle de l'environnement, donc en 2008, l'objectif d'arriver à 23% en 2020. Et on partait à l'époque de 9% donc d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie nationale. En fin 2016, le constat, c'est qu'on est à un peu moins de 16% et que sur la tendance actuelle, on arriverait entre 18 et 19% en 2020. Donc on n'est pas sur la trajectoire que l'on s'est donnée et qui est contraignante dans le cadre d'une directive européenne. Maintenant, depuis, il y a eu donc la loi de transition énergétique qui devrait nous permettre d'accélérer. Je pense qu'on peut raisonnablement penser que 20% en 2020 n'est pas inatteignable. Et l'objectif final de la loi de transition énergétique pour 2030, qui est de 32%, lui, il est tout à fait réaliste.
Alors, quelle est la part, en gros, de chaque énergie dans le mix énergétique français ?
Alors, dans la part des énergies renouvelables, c'est principalement au départ l'hydraulique et c'est l'utilisation de la biomasse, donc du bois énergie, particulièrement chez les consommateurs individuels. Donc, il y a encore aujourd'hui plus de 7 millions de foyers qui se chauffent totalement ou partiellement au bois. Donc ça, ce sont les énergies qui étaient les principales dans le bouquet d'énergies renouvelables en 2009. Depuis, il y a eu une croissance assez forte, mais pas suffisamment forte, donc des biocarburants, qui représentent aujourd'hui 7% de la consommation de nos carburants routiers. Il y a eu une croissance également donc des pompes à chaleur, et de la biomasse industrielle, cette fois-ci, ou collective. Il y a une croissance de l'éolien et une croissance du photovoltaïque. Ça, ce sont les principales sources d'accroissement donc, dans notre mixte. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas...
Oui, qu'est-ce qui explique ce retard ?
On a une croissance de l'éolien qui est insuffisante, notamment parce que les projets d'éolien en mer qui étaient prévus pour fin 2020... Ces projets ont pris beaucoup de retard parce que les procédures administratives sont très longues, parce qu'il y a des recours, etc. Donc, il y a un certain nombre d'entraves au développement des énergies renouvelables. Il y a aussi, pour l'utilisation à grande échelle de la biomasse, elle est fondée donc sur un fonds chaleur donc, qui est géré par l'ADEME, dont David Marchal parlera certainement, mais qui est insuffisamment dimensionné par rapport aux objectifs. Donc voilà les principales explications.
Alors Elisabeth Hérault, la Compagnie nationale du Rhône, que vous présidez, le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Vous produisez historiquement, Jean-Louis Ball le disait, de l'énergie hydraulique sur le fleuve Rhône. Vous avez aussi développé 37 parcs éoliens, 17 centrales photovoltaïques en France. Vous êtes donc un acteur majeur de ce secteur. Pour vous, qu'est-ce qui bloque ?
Moi, je crois que Jean-Louis Ball a assez bien résumé. Ce qui bloque, c'est essentiellement, je dirais, l'envie de passer de l'autre côté et d'accepter des procédures plus simples et d'accepter que les énergies renouvelables aient une place en France. Pour autant, je reste résolument optimiste. Jean-Louis Ball a cité la loi sur la transition énergétique. Pour moi, elle est quand même un tournant dans ce que la France veut faire. Et on voit voit bien que les gouvernements qui se succèdent ces dernières années ont placé, malgré tout, le développement des énergies renouvelables au cœur de leur politique. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, d'une part, que les territoires s'approprient peut-être encore plus cette énergie nouvelle, puisque c'est une énergie décentralisée. Et à ce titre, il faut aider les territoires par des mesures simples, à la fois à développer l'autoconsommation, mais aussi à ne pas sortir du réseau, parce que c'est un sujet que je trouve important. Il faut aussi que les citoyens comprennent mieux, il faut faire beaucoup de pédagogie. Les citoyens doivent comprendre cette énergie renouvelable et aussi doivent pouvoir se l'approprier. Quand on voit le succès qu'on a avec certains financements participatifs, soit que la CNR a lancé, soit d'autres opérateurs, on se rend compte que les citoyens s'intéressent à la production de l'énergie. Donc voilà, il me semble qu'on n'est pas très loin de basculer, et pour autant, le revers de la médaille, c'est que lorsqu'on gagne un appel d'offres, on est content et on pense qu'on va pouvoir développer, puis on se rend compte qu'il y a toute une série encore de gouffres qui sont devant nous, parce que ce ne sont pas des petits fossés, bien souvent, ça prend du retard.
Des gouffres de quel ordre, par exemple ?
Administratives, des problèmes de raccordement, des problèmes de filière en France aussi, je voudrais le dire. En France, nous n'avons pas su saisir, lorsque nous avons commencé à développer les énergies renouvelables, nous n'avons pas su saisir la chance que nous avions de créer des filières. Filières photovoltaïques, éoliennes, etc. Tout ceci a aussi ralenti, alors que nous avons une expertise. On nous envie ça dans d'autres pays, nous l'avons, et nous n'avons pas développé pour autant de filières dédiées au solaire, et je trouve que c'est dommage.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle impulsion, là, avec le nouveau gouvernement? Par exemple, il y a des mesures qui ont été annoncées par Nicolas Hulot cette semaine, le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui sera transformé en prime, versé dès que les travaux seront achevés, le coup de pouce donné aux ménages qui ont des moyens les plus modestes, qui veulent changer leur chaudière au fioul très polluant, par exemple. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous, Jean-Louis Ball?
Ouais, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est des principes qui ont été énoncés par Nicolas Hulot. Il faudra voir dans le détail comment cela va être mis en pratique. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que suite à la loi de transition énergétique, le précédent gouvernement a apporté aux professionnels de la filière une visibilité sur du moyen terme, hein, sur 3-4 ans, qui est l'élément, je dirais, essentiel pour assurer ce développement. On a une programmation des appels d'offres dans le secteur photovoltaïque, dans l'éolien. On doit également perfectionner cette programmation des appels d'offres pour les énergies marines renouvelables. On a à augmenter le fonds chaleur. Voilà, c'est tout ce que nous attendons du nouveau gouvernement. Et donc, je pense que Nicolas Hulot est très réceptif à nos messages.
En plus, David Marshall, le potentiel en termes d'emploi est très très fort, hein.
Oui, non seulement le potentiel, mais la situation actuelle. On a déjà 80 000 emplois directs dans les énergies renouvelables en France. Alors, toute énergie confondue, hein, je parle de la chaleur renouvelable, de l'électricité renouvelable, également des biocarburants. 80 000 emplois directs, quand on passe aux emplois indirects, enfin directs et indirects, c'est-à-dire quand on compte en plus les sous-traitants, alors, il y a des chiffres qui vont jusqu'à 160 000 emplois, 160 000 emplois directs et indirects, selon l'IRENA. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un tissu important. On a peut-être raté un petit peu le montage de véritables filières. Comme le disait Madame Hérault, il n'y a pas de meneurs de fil, il n'y a pas, en dehors de quelques exceptions, de grands turbiniers éoliens en France. On a GE qui s'est installé à Saint-Nazaire, on a Poma qui est une usine qui vient d'être mise en service. Disons que les leaders de l'éolien ne sont pas en France. Néanmoins, il y a beaucoup de PME qui sont sous-traitants, qui sont fabricants de pièces, d'alternateurs, d'électronique de puissance, qui représentent un grand nombre d'emplois et qui montrent aussi toutes les retombées économiques que peuvent avoir ces filières sur le territoire.
Oui, parce que même si on importe finalement beaucoup de matériel de l'étranger, la balance commerciale concernant les énergies renouvelables n'est pas pour autant négative. Ça peut surprendre.
Oui, alors bien entendu, ça dépend des filières. Il y a des filières dans lesquelles on importe peu, hein, des filières historiques comme l'hydraulique sont des filières où on a une balance commerciale naturellement positive. Mais on a regardé à l'ADEME en détail un peu plus précisément la balance commerciale complète en prenant en compte les économies de combustible évitées. Parce que quand on produit de la chaleur renouvelable, on évite d'importer du fioul, on évite d'importer du gaz. Quand on produit de l'électricité renouvelable, on évite d'importer également des carburants qui soient fossiles ou fissiles, des combustibles qui soient fossiles ou fissiles. Et globalement, en prenant en compte ces économies de combustible évitées, on a une balance commerciale qui est tout à fait positive. L'exemple de la chaleur renouvelable est particulièrement éloquent. Enfin, quand on subventionne une chose chaufferies bois, par exemple, à s'installer pour chauffer un réseau de chaleur. Vous les stères, toutes les tonnes équivalent pétrole de bois qui sont brûlées, évitent des carburants importés. Et donc, c'est très bénéfique d'un point de vue économique. Nous, on a estimé qu'environ en 3 ans, la subvention accordée par l'État est remboursée par les économies de combustible non importés.
Voilà. Et vous avez fait des perspectives à 2050 qui sont assez prometteuses aussi, notamment en termes d'emploi.
Oui, alors là, c'est effectivement, on regarde d'un point de vue prospectif, on regarde plus globalement quel est l'effet sur l'économie d'un point de vue macroéconomique. Puisque vous pourriez me rétorquer qu'il y a certes des emplois créés dans les filières énergie renouvelable, mais quand elles se développent, d'autres emplois ailleurs disparaissent, que ce soit dans les énergies fossiles ou peut-être un jour dans le nucléaire. Et donc l'intérêt, c'est de regarder globalement à l'échelle de l'économie française, est-ce que le bilan est positif ou négatif. Et quand on modélise la transition énergétique et son effet en 2050, on montre en effet que le bilan est tout à fait positif, avec 900 000 emplois créés dans un scénario avec transition énergétique, en plus 900 000 emplois en plus par rapport à un scénario où on continuerait juste tranquillement notre trajectoire sans transition énergétique.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent, nous parlons du développement des énergies renouvelables en France avec nos invités dans notre studio installé à la Maison de la Chimie à Paris. La France est en retard sur ses objectifs, nous l'avons vu. Une des raisons est sans doute le manque d'appropriation de cet enjeu par les citoyens. Contrairement à l'Allemagne où près de la moitié des installations énergétiques renouvelables appartiennent à des citoyens et à des agriculteurs regroupés sous forme de coopératives. C'est le choix qu'ont fait par exemple les 5000 habitants de Rheinfels, d'une petite ville dans le nord-est de l'Allemagne, où s'est rendue Sarah Roumette.
Ce soir, comme chaque vendredi depuis sa création, le directoire de la coopérative se réunit dans la salle polyvalente de la commune. Une grande table, un ordinateur portable avec l'ordre du jour, des pintes de bière pour les uns, des tasses de café pour les autres. Une dizaine d'hommes sont présents, tous bénévoles. Certains sont retraités, les autres doivent dégager du temps à côté de leur activité professionnelle pour faire vivre les projets de la coopérative. Et pendant 2 heures, chacun prend la parole à tour de rôle et fait le compte-rendu des tâches qui lui étaient confiées. Ce vendredi, la coopérative reçoit la visite de Zilke Bartholomeus. Elle travaille chez Naturstrom, qui est le premier distributeur d'énergie 100% verte en Allemagne. Cette entreprise, très engagée dans les énergies renouvelables, s'intéresse de plus en plus aux coopératives d'énergie et à la décentralisation de la production. Ce soir, elle est là pour discuter avec les sociétaires d'un partenariat possible pour leur futur projet.
De l'expérience que vous avez, des gens que vous rencontrez, qui sont les gens qui sont à l'origine de ces créations de coopératives d'énergie?
Ça traverse toutes les couches de la société, c'est vraiment très intéressant. Dans le sud de l'Allemagne, par exemple, le mouvement des coopératives d'énergie vient plutôt des agriculteurs et des maires des petites communes qui ont dit « Nous voulons nous en occuper nous-mêmes pour économiser de l'argent sur leurs factures d'électricité. » Il y a aussi des idéalistes engagés depuis longtemps dans le mouvement écologiste. Il y en a aussi qui ont vu ça comme un bon placement, notamment quand les subventions de l'État pour l'électricité verte étaient plus élevées. On retrouve vraiment toute la société dans les coopératives d'énergie.
Et est-ce que c'est des gens qui s'y connaissent en électricité particulièrement avant ?
La plupart du temps, non. Ce sont souvent des gens qui en ont eu assez de payer des factures d'électricité de plus en plus élevées. Et puis ensuite, surtout depuis Fukushima, ils se sont dit « Ce n'est pas possible qu'on soit réduit à l'énergie atomique. Ce n'est pas possible qu'on soit obligé de donner autant d'argent aux grands distributeurs pour recevoir cette énergie sale. » Et à partir de là, les gens ont commencé à réfléchir et à réaliser que c'était aussi intéressant financièrement avec la subvention de l'État et puis c'est bon pour l'environnement. Et du coup, le concept s'est peu à peu étendu.
Et pour vous, c'est pas compliqué les négociations pour soutenir de nouveaux projets ou pour développer ce qui est déjà existant, justement parce que les gens qui sont en face de vous ne sont pas des professionnels du métier?
Pas du tout.
Au fil des années, les personnes ont acquis de l'expertise sur le sujet en apprenant sur le tas. C'est le learning by doing, comme on dit. Et souvent, ils sont très au fait du sujet. Ils savent très bien ce qu'ils veulent et on regarde ensemble ce qui est réalisable. Et puis, il est très simple de créer une coopérative en Allemagne. C'est pourquoi cette structure est souvent choisie. Parce que chaque membre a une voix. Pour créer les statuts, on trouve des modèles tout prêts sur Internet et la structure est là. C'est vraiment pas compliqué de créer une coopérative.
Jean-Louis Ball, comment réagissez-vous à ce reportage fait en Allemagne ? On aurait pu le faire en France, ça démarre en France, hein ?
Ça démarre en France. Il y a un intérêt évident, grandissant donc, du grand public pour les énergies renouvelables, et notamment parce que les prix de production donc d'électricité par les énergies renouvelables ou de chaleur sont devenus extrêmement compétitifs. L'autoconsommation, c'est-à-dire le principe de consommer soi-même l'énergie que l'on produit à partir de son toit en photovoltaïque, c'est un phénomène qui commence seulement à se développer. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de milliers de consommateurs particuliers qui pratiquent donc l'autoconsommation, mais c'est quelque chose, avec la compétitivité du photovoltaïque aujourd'hui, qui va prendre une ampleur sans précédent. Il y a un mouvement qui est lancé et qui va dans le sens d'une décentralisation et donc qui va permettre aux particuliers, au grand public de s'accaparer donc le sujet des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.
Alors justement, Elisabeth Hérault, est-ce que c'est une dynamique sur laquelle la CNR pourrait s'appuyer, par exemple, pour se développer sur le territoire ?
Oui, parce que je crois effectivement que le développement des énergies renouvelables, du fait qu'on se rapproche en fait du citoyen, de l'individu, hein, physiquement, ce qui n'était pas le cas avant, il est de plus en plus concerné. Lorsque nous avons lancé notre financement participatif sur un champ éolien en Ardèche, c'était la première fois que nous le réalisions. Nous avons utilisé une plateforme, puisque maintenant on peut utiliser des plateformes. Celle-ci s'appelle Enerfip, et les équipes de CNR avaient dit qu'on lançait un appel à financement à hauteur de 300 000 euros et que si on collectait 200 000 euros, ça serait un très grand succès. Et on a collecté 300 000 euros en 3 jours. Nous avons été obligés de lancer une seconde tranche parce que d'une part, il y avait beaucoup de gens qui étaient insatisfaits et d'autre part, nous avions promis là aussi d'ouvrir en fait ce financement participatif à nos collaborateurs. Et donc je reste persuadée qu'il y a un vrai engouement du public, on a forcé personne à rejoindre ce champ éolien. Et du coup, j'ai aussi envie de dire que je milite beaucoup pour que l'on cible mieux les lieux de production et qu'on travaille plus sur des garanties d'origine ciblées, hein, et qu'on sorte du schéma garantie d'origine renouvelable ou garantie d'origine. D'ailleurs, je n'ai pas honte de dire que je pense qu'il faudrait oser dire qu'il y a des garanties d'origine charbon, mais j'aimerais qu'on dise qu'il y a une garantie d'origine éolienne de tel champ en Ardèche et que chacun sache ce qu'il consomme. Au-delà de l'autoconsommation dont parle Jean-Louis Ball, qui me paraît être aussi une façon de s'approprier l'énergie.
Et puis, il faut aussi innover. Alors, vous innovez avec CNR. Il y a notamment les hydroliennes fluviales, par exemple, que vous allez...
L'innovation, c'est un sujet qui m'importe énormément parce que je pense qu'aujourd'hui, la façon que nous avons de produire les énergies renouvelables en France n'est pas encore arrivée au bout de ce que nous pouvons faire et qu'il y a encore beaucoup à inventer. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, les champs photovoltaïques tels qu'on les développe ou l'éolien, ce n'est pas forcément ce qu'on fera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, CNR est une entreprise de taille intermédiaire. On est 1400 collaborateurs et nous travaillons donc assez facilement sur des projets innovants. Et effectivement, nous avons, avec le concours de l'ADEME, et du fait que l'un de nos salariés a imaginé au fin fond du Haut-Rhône qu'il souhaitait implanter une hydrolienne pour alimenter en fait une station de relevé de données sur le Rhône, et bien à partir de cette idée d'un de nos salariés et avec le soutien de l'ADEME, nous avons lancé le projet de 39 hydroliennes fluviales qui va être la plus grosse ferme hydrolienne, en tout cas on dit du monde, je pense que c'est pas loin pour l'instant, hein. Et ce qui va nous permettre de démontrer que c'est possible, hein. Et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, de lancer aussi une filière d'excellence en France à partir de ces hydroliennes fluviales et de le développer aussi à l'international. En matière d'innovation, je crois aussi que nous avons la chance finalement de prendre conscience aujourd'hui que sur ces nouveaux produits que nous allons imaginer, nous pourrions effectivement rattraper ce retard que nous avons pris en n'ayant pas de filière dédiée aux énergies renouvelables. Et moi, je crois beaucoup à l'investissement dans cette innovation.
Merci d'avoir participé à cette émission. Le savoir-faire des entreprises françaises justement en matière d'énergie renouvelable s'exporte, notamment sur le continent africain. Nous en parlons avec nos invités juste après le flash d'info. À tout de suite.